Cinérama.
Cette nuit, notre plastron émetteur a été saboté.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Espèce de sac à poutre.
Je t'aime.
Tu vas rôter du sang.
Cinérama.
Défense de rire et défense de pleurer.
Moi, ce qui me fait chier, c'est les effets spéciaux minables. Je supporte plus.
Je suis ton père.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je dois reconnaître que vous affirmez des choses plutôt incroyables et qui devraient être vérifiées.
Cinérama.
Bon, en piste les louloutes.
Actualité cinéma et tout le reste sur Divergence FM.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama. Nous sommes le mercredi 16 mai. Bonjour Manu.
Bonjour Vincent.
Et je ne dirai pas bonjour à Marine, puisque eh bien, elle est en partance pour Cannes. Voilà. Elle nous a fait un petit coucou avant qu'on commence l'émission. Elle va essayer de nous rapporter eh bien, quelques sons du festival qui s'ouvre aujourd'hui. C'est ça?
Oui, oui.
Voilà. Et elle sera de retour la semaine prochaine. Alors, eh bien, on a fait un sommaire copieux. Et toi, pour le coup, eh bien, tu t'es plutôt défoncé. Hein.
Oui, donc je vais donc vous parler d'abord du film de Tim Burton, le nouveau Dark Shadows. Ensuite, donc dans le cadre de l'absurde séance, un film extrême, Tokyo Gore Police.
C'est l'ultime.
L'ultime, la dernière de cette année. Hein, ça reprendra l'année prochaine. Et enfin, deux bisseries gothiques italiennes éditées chez Artus, L'effroyable secret du docteur Hitchcock et Vierge pour le bourreau.
Donc, film bis, majoritairement aujourd'hui quand même.
Oui, majoritairement. Voilà.
Alors, on aura aussi l'occasion de parler d'un film qui sort aujourd'hui. C'est Contrebande de Balthazar Cormacur avec Marc Wahlberg. Et puis, on écoutera une interview aussi eh bien, de Mohamed Diab, puisque son film Les Films du Bus 678, qui avait été présenté au Cinébed, eh bien, sera présenté à nouveau, on va dire, en avant-première à l'occasion du festival Arabesque. Qu'est-ce qu'il y aura aussi? Eh bien, une interview d'Henri Delatour qu'on recevra par téléphone pour parler du festival de La Salle qui débute lui aussi aujourd'hui, comme le festival de Cannes, mais qui dure beaucoup moins longtemps et qui concerne plutôt les films documentaires. Et ce sera juste après ta chronique de Dark Shadow. Et puis, j'oublie pas, on fait une espèce de spécial Cannes avec un blind test où il faudra découvrir eh bien, des palmes d'or. Voilà, on passera quelques extraits et ce sera à vous de deviner qu'est-ce qui se cache sous l'extrait. C'est Cinérama.
Cinérama. Cinérama sur Divergence FM.
Dark Shadow. En 1752, Joshua et Naomi Collins quittent l'Angleterre en bateau avec leur jeune fils Barnabas pour s'expatrier en Amérique. Mais une malédiction pèse sur cette famille et l'éloignement ne peut tout résoudre. Une vingtaine d'années passent et Barnabas, beau jeune homme ténébreux, a l'avenir devant lui dans la ville de Collinsport. Riche et puissant, il est de surcroît un séducteur invétéré. Tout va pour le mieux jusqu'à ce qu'il brise le cœur d'Angélique Bouchard, une sorcière d'origine française. Et oui, nous sommes désormais les méchants de service dans le cinéma américain. Elle va lui jeter un sort plus terrible, plus maléfique que la mort. Désormais immortel, Barnabas va être transformé en vampire et enterré vivant. De plus, jalouse de l'amour que Barnabas éprouve pour sa dulcinée, elle va précipiter la jeune femme dans un précipice et provoquer sa mort. Deux siècles plus tard, Barnabas est libéré de sa tombe. Il débarque en 1972, et va se rendre compte que le monde a changé.
Je me nomme Barnabas Collins. Il y a deux siècles, je me suis établi au manoir de Collinwood.
Mon amour.
Mais une sorcière jalouse m'a jeté un sort et voué aux ténèbres.
Que tu fais ?
À tout jamais.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Il s'en revient. Il s'en revient.
Oh là, habitants du futur, en quel an sommes-nous?
En 1972.
En 1972?
Oh.
Mon bien-aimé Collinwood.
Et la famille Collins.
D'où il sort celui-là?
Je suis un vampire, madame.
D'accord.
J'espère qu'il va pas s'incruster.
Moi, je l'aime bien.
Bienvenue en votre demeure, Barnabas Collins.
Voudriez-vous faire apprêter les chevaux?
Nous n'avons pas de chevaux. Nous avons une Chevrolet.
Mais quelle est cette diablerie? Montre-toi, ménestrel lilliputienne!
Bonjour, Barnabas. Me revoilà.
Sorcière, tu as fait de moi une créature immonde! Tu peux aller te faire trousser la partie la plus charnue de ta sublime anatomie.
Mais si je te forçais à m'aimer?
Par quel sortilège?
Celui-ci.
Je dois bien admettre qu'ils n'ont pas pris une ride.
Elle est sérieuse, là ?
Hélas, oui.
Si tu refuses d'être à moi, je t'anéantis. Toi et ta famille.
Et manquez. Je vais redonner à l'entreprise familiale son lustre d'antan.
Nous allons les réduire en cendres.
Continuez le combat, Barnabas, pour nous.
Je combattrai. J'en fais le serment.
Aime-moi.
Jamais. Voilà un retournement fort regrettable.
T'as fumé ou quoi ?
Ils ont essayé de me brûler vif, ma petite. Mais enfin.
Hypothèse douloureuse, notamment pour les fans du créateur de Monsieur Jack et d'Edouard aux mains d'argent. Et si Tim Burton avait perdu la flamme ? Ne vivant aujourd'hui que sur un glorieux passé et ne proposant rien d'autre que ce qu'il sait faire à merveille, sans chercher à innover. Au moment où la Cinémathèque de Paris lui rend hommage à travers toutes ses créations picturales et cinématographiques, la perte d'inspiration est flagrante. Au fond, quel est le dernier chef-d'œuvre d'un auteur aujourd'hui très médiatisé et souvent plus formaté qu'on ne l'admet généralement ? Les derniers Burton, si l'on accepte le très sombre et mélancolique Sweeney Todd, s'ingèrent sans parvenir à le renouveler l'univers très codifié du cinéaste. Désolé, mais La Planète des Singes, Les Noces Funèbres, Big Fish et Charlie et la Chocolaterie me paraissent bien ternes par rapport à la magie d'Edouard ou la déclaration d'amour au 7e art d'Ed Wood. Le retour de Tim Burton au sommet de son art était la gageure de son nouveau film, très excitant sur le papier. Dark Shadow est à l'origine d'ailleurs une adaptation d'une série culte réalisée entre 64 et 71, sortie de l'imagination d'un des artisans les plus méconnus du fantastique, le regretté Dan Curtis. Dan Curtis a traumatisé toute une génération, aujourd'hui bien sûr vieillissante, de téléphages avec, souvenez-vous-en, La Malédiction de la Veuve Noire. Il a aussi réalisé une excellente ghost story, très supérieure à tous les Amityville, le méconnu Trauma. Rendre hommage à ce cinéaste discret, ayant surtout travaillé pour le petit écran, est déjà salutaire et prouve à quel point Burton est imprégné de culture populaire. Dark Shadow est un conte gothique qui s'ouvre de la plus belle manière. Le prologue est une vertigineuse plongée dans les arcanes de l'univers désenchanté d'un certain romantisme gothique. Magnifié par une photographie splendide et des décors démesurés, le sens du récit de Burton laisse présager un grand film. Une voix off narre l'histoire de la malédiction de Barnabas. En 5 minutes de poésie sombre, Burton nous offre un court-métrage absolument génial. Une fois le dispositif en place, l'histoire, enfin celle que Burton veut nous raconter, se transforme alors en une comédie macabre teintée de satire sociale. Et, faut l'avouer, c'est nettement moins bon. Le télescopage esthétique de deux époques est pourtant fascinant à bien des écarts. L'atmosphère quasi-victorienne de la grande demeure de la famille Collins en conflit avec la modernité psychédélique offre de beaux moments plastiques, mais Burton se noie dans des facilités indignes de son talent, notamment en ce qui concerne tout le ressort comique sur les paradoxes temporels. Un exemple, lorsque Barnabas croise l'enseigne rouge vive du McDonald's, il s'écrie « Méphistophélès » pour bien nous faire comprendre que la chaîne de bouffe alimentaire, c'est le diable. Amusant, mais en fin de compte assez facile. La séquence avec les hippies à la ramasse a même un relent légèrement réactionnaire. Ses défauts sont heureusement compensés par une direction d'acteur impeccable, une BO formidable faisant la part belle à quelques classiques 70s et une interprétation survoltée d'un Johnny Depp en roue libre et surtout de la discrète et méconnue, je trouve, Helena Bonham Carter, absolument géniale en psy de pacotille. Divertissant mais sans grands enjeux thématiques, Dark Shadow n'est guère plus emballant que la famille Adams, avant de rappeler dans le dernier quart d'heure frénétique et baroque qu'il est aussi l'auteur de Batman le défi. Le combat entre Barnabas et la sorcière, sauvage et ambigu, reste un morceau de bravoure inégalé dans lequel le cinéaste se complaît sincèrement dans son affection pour les monstres, les corps déformés, la solitude des êtres doués de pouvoirs hors normes. Donc au final, je dirais que c'est inégal et brillant. Enfin, Dark Shadow pêche par un manque d'ambition, une certaine timidité dans l'écriture. Disons que la part de subversion de ses meilleures œuvres semble en fait assez lointaine.
Mais en tout cas, ce sera beaucoup mieux que Alice.
C'est beaucoup mieux, c'est très supérieur à Alice et même à Big Fish, où je trouve que déjà tout l'aspect pictural, visuel, graphique est quand même assez...
Oui, il y a un petit aspect gothique aussi, oui, voilà, oui, forcément. Donc Dark Shadows est encore sur les écrans et je pense que ça va quand même rester un petit moment.
À peu près dans tous les cinémas, même je crois qu'à Utopia il est prévu pour à partir de la semaine prochaine ou la semaine d'après, il y a encore un bon mois facilement.
Allez, parlons de tout autre chose maintenant, cette fois-ci, les festivals.
Cinérama.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Aujourd'hui s'ouvre le festival de La Salle, festival de films documentaires. C'est du 16 au 19 mai et nous recevons par téléphone Henri Delatour qui en est son directeur. Bonjour.
Bonjour.
Alors, merci de nous accorder du temps, hein, parce que ça débute aujourd'hui, le festival. Alors, du coup, il y a une thématique, voilà, parce que ce sont des films documentaires, ils sont nombreux, et votre thématique, c'est même pas peur. Alors, qu'est-ce qui se cache là-dessous ?
Bah, d'abord, on sort d'une... d'un moment où on est tout le monde essayait de faire peur à tout le monde et donc c'était un peu ce qui a marqué notre temps politique jusqu'à présent et donc voilà c'est ça ce thème s'est imposé mais il faut savoir que sur les la cinquantaine de films qui sont proposés il y en a qui sont dans le thème et il y en a d'autres qui ne le sont pas parce que notre point de vue premier est de diffuser des bons films et donc et d'ailleurs, je reviens un peu sur votre présentation. Je ne suis pas le directeur, je suis que le délégué, c'est-à-dire je m'occupe de la programmation.
D'accord.
Et pour trouver 50 très bons films dans un thème pointu, c'est très compliqué. Donc il y a des films qui sont dans le thème, d'autres qui ne le sont pas. Et voilà, l'essentiel, c'est de pouvoir rentrer dans toutes les salles et d'être sûr de trouver un bon film.
Eh bien, on va écouter un extrait notamment d'un documentaire qui, me semble-t-il, est dans le thème.
L'accord doit être signé avant de présenter au CCE.
Continental, il va balancer à peu près 200 millions d'euros dans le plan social. Et ce qui est aberrant, c'est qu'ils y trouvent leur compte.
On disait le matin à 5 heures, le réveil il sonne, on va claquer le réveil contre le mur. Mais maintenant, on cherche le réveil.
Comment ils peuvent se regarder en face, faire du mal aux gens comme ça ? Ceux qui marchent sur tout le monde pour avoir du fric, je les plains, moi. Je n'aurais pas été à leur place.
Voilà, Les Contis, hein, pour Les Continentales, film de Jérôme Paltot, film documentaire. Alors, je sais que les réalisateurs n'aiment pas le mot militant. Alors, on va parler de documentaire engagé, peut-être, un peu comme le festival.
Vous savez, historiquement, en France et en Europe plus largement, les deux grands courants qui ont alimenté historiquement le documentaire, c'est le documentaire militant et le documentaire anthropologique. Mmh. Donc, il n'y a pas de honte. C'est-à-dire que le documentaire militant, c'est des fois transformé en film de propagande. Alors, évidemment, c'est le côté très négatif de la chose. Mais d'un autre côté, ce qui nous intéresse dans le documentaire, c'est la subjectivité de l'auteur et le regard qu'il pose sur le sujet qu'il traite. C'est surtout ça. Donc, on n'est certainement pas dans l'objectivité. On est beaucoup plus dans des films de point de vue, de création, parce qu'il faut que la forme aussi soit créative. Et c'est en ça que le documentaire est peut-être un petit peu en avance sur la fiction, à savoir que le documentaire propose des formes et des dispositifs toujours nouveaux, alors que la fiction reste cantonnée dans sa même grammaire, entrée de champ à gauche, sortie de champ à droite, etc. Et c'est là où je pense que le documentaire va, dans les années à venir, vu le foisonnement et la richesse créative de ce support, de ce genre, va à un moment donné supplanter la fiction, parce qu'on y trouvera beaucoup plus d'intérêt.
Alors il y a quand même forcément un besoin hein, de visibilité pour ces documentaires, même si la plupart des documentaires que vous proposez, j'imagine, sont déjà sortis sur les écrans, n'est-ce pas ?
Non, pas tous. Non, il y en a qui sont jamais sortis sur les écrans, il y en a qui le sont déjà. Non, c'est à épars. C'est-à-dire que l'idée de cette programmation, c'est d'abord des films sur la société, enfin les sociétés, parce que c'est les sociétés dans le monde, et quel que soit le temps, je diffuse des films de 1970 comme des films de 2012. Ça, c'est du point de vue de ce qui a été vu ou pas vu, il y a de tout. Il y a des inédits, il y a vraiment de tout.
Bah, il y a notamment un Tahrir, Place de la Libération de Stefano Savona, donc qui est sorti sur les écrans. Faites le mur, film de Banksy, formidable documentaire. Il y a La Merditude des choses, en revanche.
Ben, Banksy, il y a un piège, on ne va pas le raconter là, parce que pour que les gens soient surpris, mais c'est évident qu'il y a un gros piège.
Sur la forme documentaire, vous voulez dire, oui, sur...
Oui, voilà. Le Banksy, qui est à la fois réalisateur du film et protagoniste du film remis en question, et ça ne peut pas être. Donc devant cette impossibilité, il faut bien en tirer les conclusions. Et ce qui m'intéressait dans Banksy, c'est comme il y a aussi un film dont j'aimerais bien parler, ça s'appelle 5 caméras brisées. Et les deux ont un point commun, bien qu'ils soient très éloignés dans le sujet, ils ont un point commun, ce sont des filmeurs compulsifs. C'est-à-dire des gens. Alors là, pour les 5 caméras brisées, c'est Emad Burnat, qui est un Palestinien qui vit dans un petit village près d'Israël. Et il filme tout. Il filme son quotidien, sous sa famille, ses amis, machin, etc. Et sur une très longue période de plusieurs années. Et là, le montage qui donne un résultat de 90 minutes, c'est extraordinaire. C'est cette vie quotidienne des Palestiniens sous la pression de l'armée israélienne, et comment font-ils pour s'en sortir, et le mur qui progresse, et tout ça. C'est absolument scotchant. C'est vraiment un document incroyable. Et pour remonter sur Faites le mur, ben c'est aussi un filmeur compulsif. Alors lui, il filme tout en engrangeant, et il se retrouve avec des cartons pleins de cassettes qu'il n'a jamais revisionnées, puisqu'il c'est le filmé qui l'intéresse, qui est une nécessité pour lui. Et au bout du compte, voilà, Banksy en fait un film. Enfin bon, c'est assez rigolo, parce que ces points communs montrent bien que il y a beaucoup de choses à faire, même quand on n'est pas un réalisateur renommé de talent, ce qui est le cas des Matt Burnat. On arrive à trouver des documents vraiment tout à fait exceptionnels, et c'est le cas pour 5 caméras brisées. Vraiment, c'est tout à fait un film tout à fait exceptionnel.
Voilà, ça c'est un des films parmi les 50. Alors on peut noter, là vous parlez d'un Palestinien, et il y a aussi un grand documentariste qui est déjà venu au cinéma à Montpellier, c'est Avi Moghrabi, qui a l'habitude de faire des documentaires plutôt engagés, qui présentera, il ne sera pas là, mais Out avant l'explosion, c'est ça?
Oui, c'est ça. Alors il sera, on n'a pas les sous pour les faire venir, tous ceux qui sont en Europe, on les fait venir. Voilà, plus loin c'est plus compliqué, parce qu'on est sur des budgets quand même très très restreints. Quoi.
Alors même pas peur, eh bien ça touche aussi la mort.
On est passé de la visibilité du corps à l'invisibilité. Au XIXe siècle, donc, on pouvait encore voir les corps, on pouvait voir les corps qui étaient exposés en vitrine, du moins les corps de ceux qui étaient morts par noyade ou bien morts sur la voie publique, des corps dont on ne connaissait pas l'identité. On les exposait donc dans cette vitrine, on les voyait légèrement inclinés. Et aujourd'hui, on est passé donc à cette invisibilité qui est donc qui crée tant de névroses, qui crée tant d'angoisse.
Angoisse, c'est musique angoissante, on entend un thanatopracteur, hein, c'est ça, dans Curriculum Mortis.
Mortis, voilà, exactement. Avec de Lionel Monnier et Audrey Ferrarez. Et oui, c'est un film qui est. Alors. C'est drôle si vous en parlez avec les réalisateurs. C'est un film qui a été sélectionné dans plein de festivals, vraiment Biarritz, Marseille, Paris, enfin vraiment toutes les grandes villes qui ont des festivals l'ont sélectionné et l'ont jamais sorti parce que ça traite de la mort. Et qu'ils ont peur, les gens ont comment dire, une aversion de voir la mort. Et du coup, ça restreint énormément la visibilité de ce film. Et donc, les réalisateurs sont très, très heureux qu'on ait qualifié ce film, parce que moi, je trouve d'abord que c'est un film qui est très intelligemment fait, qui est remarquable du point de vue esthétique. Il a plein de choses, et on aborde la mort d'une manière qui est totalement différente. Et c'est vrai que on en sort de là, mais pas du tout dégoûté, pas du tout. Alors qu'on voit des thanatopracteurs, c'est-à-dire bon, les corps se faire nettoyer, laver, etc. On pourrait se dire, attends là, je me restreins de ce plaisir-là. C'est un plaisir morbide qui ne m'appartient pas. Mais en fait, pas du tout. Quand c'est traité avec intelligence, eh ben ça change tout. Voilà. Et c'est le cas là, et je suis très heureux. J'espère qu'il y aura du monde à cette séance, parce qu'il y a toujours cette aversion d'être en contact avec la mort. Quoi.
Eh bien, pour en finir avec ce petit entretien, on peut peut-être parler bien des invités, parce qu'autant il y a beaucoup de films, il y a aussi beaucoup d'invités. Donc, est-ce que vous pouvez parler de deux, trois invités qui vous tiennent à cœur ?
Alors voilà, il y a des séances qui ne sont pas vraiment des séances. Par exemple, il y a Iri Kazan, qui est éditeur d'une maison d'édition qui s'appelle La Fabrique à Paris, qui propose une séance, c'est le vendredi matin à 10h du matin, qui va être illustrée par des interviews filmées, mais c'est pas vraiment des films, et sur le thème de la Palestine-Israël, faire un seul et même pays des deux. Et ça, c'est une proposition politique qui existe de par le monde, qui est déjà assez courante, mais en France, elle n'a jamais percé. Cette idée n'a jamais été relayée ni par les intellectuels, ni par personne, ni par les politiques. Et du coup, là, voilà, ça devient une nouvelle proposition qui est très intéressante, et ça, donc, c'est pour créer un débat. Il y a aussi le samedi matin, il y a aussi un débat très intéressant qui est un ambassadeur proposé par Siciliano et Macherel, qui est là aussi avec à partir d'interviews qui illustrait le thème de Même pas peur entre autres et de notre des enjeux de notre société actuelle. Voilà. Et ça c'est très riche, c'est très intelligemment fait, c'est très bien.
Un dernier. Hein.
Sinon, il y a deux pièces de théâtre aussi. Alors, il y a, oui, comme invité, évidemment, il y a un invité central qui est Armand Gatti, qui vient avec Hélène Châtelain, qui est sa compagne ou son ex-compagne, enfin, et va donc le vendredi après-midi proposer un film qui s'appelle Nous étions tous des noms d'arbres, qui est un film qui était tourné à l'époque de Margaret Thatcher en Irlande, alors qu'en Irlande il y avait des prisonniers qui faisaient la grève de la faim. Enfin voilà, c'est tout un contexte particulier qui est très bien. On est très fiers que Gatti vienne. Et à la fin du festival, pour clore en quelque sorte le festival, il y a une pièce de théâtre qui a été écrite à partir des écrits de Gatti, qui s'appelle Aux arbres citoyens, qui sera proposée le samedi soir. Donc.
Eh bien, voilà, bah, merci beaucoup, Henri Delatour. Donc, le festival de La Salle, eh bien, c'est forcément à La Salle, hein, c'est du 16 au 19 mai. Il faut profiter du pont, hein, effectivement, puisqu'on en a l'occasion. Alors, on peut trouver toutes les infos sur les séances sur votre site internet.
Oui, alors festivaldelasalle.org.
Voilà, c'est tout simple. Et donc, on verra bien la cinquantaine de films, un programme très, très fourni donc autour du film documentaire avec ce thème « Même pas peur ». Merci beaucoup à vous.
Au revoir.
Solo balena pucena Bubamara sose nicele Devoa, devoa, mangavoa, o anche me camera. Sae romene pucela, uva mara sose acela, deva, deva, va. Charle, Buba Mara Koha, Ochine, Eiro Malen, Ashunen, Echaloren Kugle, Zurale, Buba Mara Chayori, Baro Grga Voisi, Ochili.
Jingiriki Buba Maro, Ciknie, Shujie, Aye Mori Boiro Meza. Чингирики Буба Маро циклие, чужие, айде моли гой ромеса. Чалале, ромале, чалале, ромале, чалале, ромале, чалале, ромале, аве текера.
За ромале не пучела, оде орифусу и чудела. Dela, dela, sa Charle, Buba Maru voite arese. Peiro male nasunen, echa oren kugle shukaren. Shivoto sirigi shpil, tra dela rom aironi.
C'était Mir Kusturica dans Cinérama, pause musicale aujourd'hui qui concerne eh bien les réalisateurs vainqueurs à Cannes, hein, plus d'une sorte de spécial Cannes. Il y aura un blind test un peu plus tard dans l'émission. Et à noter que Emir Kusturica, eh bien, sera en concert cet été à 7.
Cinérama.
Bon, est-ce que de voir ce film, ça vaut le coup de se prendre une méga prune, Fourrière et compagnie ?
Sur Divergence FM.
Parlons maintenant de Contrebande de Balthazar Cormacur. Alors faire un remake, pardon, une adaptation selon son réalisateur, Balthazar donc Cormacur, seulement 4 ans après la sortie de l'original, il faut quelques raisons. Alors ça n'est pas nouveau pour le cinéma américain qui déteste se farcir les films étrangers, n'aimant pas particulièrement le doublage, pas davantage les sous-titres, mais surtout, eh bien, ils tiennent à leur vernis hollywoodien. Même quand les réalisateurs ne sont pas des inconnus, il est difficile, mais un film étranger, de se faire sa place aux États-Unis, mais aussi partout dans le monde. Alors on prendra quelques exemples. Abre los Oros de Alejandro Amenábar en 97 est devenu en 2001, Manu.
Vanilla Sky.
Voilà. Et l'étonnant Rec de Paco Plaza et Jean Balagueró est devenu un an après.
En quarantaine.
Voilà. Donc ça, c'est pour les Espagnols. Et pour les Français, eh bien, il y a du monde devant la cabine de projection et le remake concerne tous les genres. Alors d'abord, la comédie, eh bien, c'est connu, on rit mieux entre Américains. Il y a d'abord, notamment, un des derniers exemples, c'est LOL, donc, qui est devenu Laughing Out Loud. Et c'est d'après...
LOL.
Bah oui, voilà. En 2010, The Dinner, c'était d'après...
Je sais pas.
Alors,
sais
c'est Dinner for Schmucks, le sous-titre. Et c'est le dîner de con, eh oui. On reste dans la comédie, hein, c'était l'indice. Et en 2001, Les Visiteurs en Amérique, eh bien ça, c'est facile, c'est d'après...
Les Visiteurs.
Merci, Madu. Et La Fête des Pères, Father's Days, ça, c'est d'après un film de Jacques Weber, Les Compères, eh oui.
Oui.
Eh oui. Et il y a aussi des thrillers, hein, avec Les Trois Prochains Jours, The Next Three Days, ça, c'est d'après Pour Elle, sorti en 2008. Et puis, il y a Suspicion, d'après Garde à Vue, ouais, de Claude Miller, qui nous a quittés il y a peu, où le couple Ventura Cero devient le couple Gene Hackman. Alors, on pourrait apercevoir une petite ressemblance avec Michel Serrault. Mais après, l'autre, c'est Morgan Freeman qui fait Lino Ventura. Donc là, c'est un peu moins évident. Et si on devait citer eh bien, les films japonais américanisés, on trouverait pas moins de 3 films de Hideo Nakata. Et toi, je suis sûr que tu les connais. Il y a...
Darkwater.
Voilà, Le Cercle. Et Le Cercle 2. Voilà.
Réalisé lui-même par Nakata aux États-Unis.
Voilà, tout à fait. Alors, c'est aussi le cas de Funny Game de l'Autrichien Haneke, un film pourtant réussi, mais avec un casting germano-autrichien, donc pas forcément attirant, même s'il y avait Ulrich Mühe, l'interprète du lieutenant de la Stasi dans La Vie des Autres. Alors, Funny Game qui sera 10 années plus tard adapté par Haneke lui-même, plan par plan, avec Naomi Watts et Tim Roth au casting. Et Gus Van Sant s'était aussi amusé à faire du plan par plan avec Psychose d'Hitchcock. Et dans le chapitre des remakes, je m'étonne même que Hitchcock ne soit pas davantage adapté, hein, parce qu'après tout, son œuvre est abondante et un baume de couleurs eh bien, est toujours bon à prendre.
Il y a eu Meurtre Parfait. Ah. Avec Michael Douglas, qui le remake du crime était presque parfait.
Ah ben ça, je ne l'avais pas trouvé. Mais en tout cas, ils annoncent la sortie de Soupçon tout bientôt. Voilà. Alors, offrir une nouvelle dimension, un autre point de vue sur un même sujet, c'est l'avantage des remakes. Alors, j'ai parlé il y a peu dans Cinérama de La Mouche, de David Cronenberg, adapté de La Mouche Noire, de Kurt Neumann, hein, qui était sorti en 58. Les deux films n'ont aucun point commun, sinon qu'un scientifique se télétransporte avec une mouche, mais l'original et la plaisante série B, marquée par les limitations techniques de l'époque, eh bien, devient un remake, un cran au-dessus, car pris à bout de bras par un cinéaste qui ne sacrifie pas tout à la situation, et on applaudit. Alors pour Contrebande, eh bien ça paraît moins évident et le projet paraît trop consanguin. Le film dans lequel joue Mark Wahlberg est réalisé par l'Islandais donc Balthazar Kormákur et l'adaptation de Reykjavik Rotterdam qui a représenté l'Islande aux Oscars et dans lequel le rôle principal est tenu par Balthazar Kormákur. On a donc demandé à l'acteur de l'original de se transformer en réalisateur du remake. Alors ça, c'est pas banal et en fait je saurais pas dire s'il y a des précédents, peut-être, c'est probable. Quoi qu'il en soit, nous voici avec Contrebande à la Nouvelle-Orléans, entre la ville et ses gratte-ciels, et comme partout finalement, et son port où arrivent des cargos chargés de containers. Le film s'ouvre sur une opération des douanes, sur un bateau qui rejoint le port. Alors c'est impressionnant, ça part dans tous les sens, mais ça ne donnera rien. Les deux jeunes qui avaient le paquet que la douane convoitait ont tout jeté par-dessus bord, et on les comprend. Alors seulement dissoudre plusieurs kilos de cocaïne dans l'eau de mer commercialement pour celui qui a fait la commande, eh bien c'est une opération nettement déficitaire. Donc le méchant de service va dérouiller les gamins pour leur faire comprendre qu'ils doivent impérativement rembourser ce qu'ils ont lâchement perdu. Et comme la dérouillée est visible, eh bien, l'un des gamins va devoir cracher le morceau à son beau-frère, Chris Faraday, interprété par Mark Wahlberg, qui voit rouge. Par le plus grand des hasards, Faraday a été dans le passé un redoutable contrebandier, estimé et respecté de tous. Alors, c'est pas que ça lui fait plaisir vraiment de retourner dans la contrebande, mais il n'a pas le choix.
Ça va pas, qu'est-ce que tu fous? Tu débarques pas chez moi.
Je suis là pour te dire que t'auras ton fric dans un mois. D'ici là, t'approches pas Andy.
J'attendrai pas aussi longtemps.
Bah, s'il meurt, t'auras rien.
Si on crève avant d'avoir remboursé, la famille hérite de la dette. T'as 2 semaines. Ensuite, je vois avec votre compte à tous les deux. Et je traque toute la famille. D'abord, j'irai voir ta femme et tes gosses. Oh,
oh, tu crois que t'es le seul à avoir un flingue? Tu l'auras, ton fric, connard. Mais essaie encore de parler de ma femme et de mes gosses. Et t'es mort. Je te fais la peau. Est-ce que t'as bien compris?
Ben, je crois qu'il avait compris, hein, parce qu'il est quand même assez violent. Donc il s'est rangé, Faraday. Il a une femme, des enfants, mais comme il hérite de la dette, eh bien, la menace sur sa famille est trop grande. Donc il replonge et hop, direction le Panama pour réaliser un gros coup. Les ficelles sont grosses, mais en avant la musique pour un 3 jours chrono où l'objectif est de ramener l'argent et de retrouver bien sa famille. Donc il monte sur un cargo, réunit des habitués de la contrebande et normalement son plan est sans accroc. Mais dopé à l'action, le scénario nous réserve tout un tas de péripéties. Une fois au Panama, rien n'est vraiment crédible, ni l'arrivée en créneau du cargo, ça, j'avais jamais vu ça, ni le méchant panaméen qui est vraiment un sale type attiré par la seule convoitise. Mélange d'invraisemblance et de portraits bâclés, Contrebande aurait pu nous soulever de notre fauteuil avec ses scènes d'action, mais sans manquer de flingue, elle manque parfois de souffle.
T'as un petit colis pour moi? Ce type-là, c'était le roi de la contrebande. Dommage que ton branleur de beauf ait loupé l'occasion de suivre ton exemple.
Qu'est-ce que vous avez foutu?
J'avais une cargaison à faire passer. Les douanes sont montées et j'ai tout balancé.
Il a acheté la cargaison, il est dans la merde.
T'as pas l'air très sûr de toi.
La règle du jeu, tu la connais!
S'ils arrivent pas à obtenir le fric, ils vont faire pression sur nous.
Ce qui est pas une solution, c'est d'aller en prison.
Je sais dans quoi je m'embarque.
Tout ce que je te demande, c'est de revenir.
Quoi?
Tu te rappelles la dernière fois? Les faux bifetons. Ça vaut combien d'après toi?
Dans les 140 millions.
Où est mon pote Ressus?
On l'a donné au loup.
Quoi, vraiment?
Le pognon s'est envolé.
Alors, même si Mark Wahlberg n'a rien à apprendre sur le jeu des gros durs, son personnage est un poil monolithique. Il a une mission, une morale, une famille. Tout ce qui est en travers de sa route doit flancher. Point. La caméra est parfois nerveuse, mais elle a du mal à se poser sur l'ami de Faraday, alcoolique en repentance, et un peu plus d'épaisseur pour ce personnage trop calme aurait été intéressant, mais le réalisateur avait plutôt l'objectif de nous faire passer un moment sans accroc. Donc Contrebande, au final, eh bien, est un film de série B qui tient plutôt ses promesses, avec les cascades qu'il distille ça et là, mais le gros souci, c'est qu'il reste sans finesse et plutôt sans surprise, voilà. Mais si vous aimez la baston, la castagne et les gros coups de poing, ça peut être pas mal. À noter qu'il y a pas mal de scènes sur le bateau, mais même ça, j'ai trouvé que c'était mal exploité. Ils sont pas allés au bout, quoi.
Je verrai si j'y vais.
Donc. Ouais, oui, bah, va tester, toi.
Je vais
toi.
Tester, j'aime
oui,
bien.
Oui, tu vas tester. Allez, c'est l'absurde séance maintenant.
Qui êtes-vous?
Cinérama.
J'ai pas très bien saisi.
Sur Divergence FM.
Tokyo Gore Police, donc pour la dernière absurde séance qui met fin donc à la saison 2011-2012 et qui reprendra donc certainement l'année prochaine. Donc Tokyo Gore Police est un film de, j'appelle bien, Yoshihiro Nishimura.
Oui, je confirme, on n'a pas d'huissier sous la main, mais oui.
Une nouvelle vague de cinéastes japonais compte bien prendre la relève des Takashi Miike, Hideo Nakata et Kyoshi Kurosawa. Issus du porno ou du manga trash, des francs-tireurs livrent des films ultra-gore, décomplexés et extrêmes dans leurs propos. Après Machine Girl et Meatball Machine, voici que débarque ce Tokyo Gore Police au titre on ne peut plus explicite. Amateurs de fantastique subtil avec des fantômes aux cheveux gras, passez votre chemin. Bienvenue dans un univers fun, politiquement incorrect et ultra-sanglant. Tourné en numérique, avec un style d'image très lisse, le début d'ailleurs peu agacé. Mais en moins d'une minute, le ton est donné. L'esthétique sitcom est vite balayée par une séquence d'ouverture explosive. C'est la tête d'un flic qui se fait littéralement exploser. Le contraste entre l'apparente mièvrerie de l'enrobage visuel, avec la musique pop japonaise et la voix off d'une gamine un peu gnangnan, et la violence pleinement assumée de la scène détonne. Ce préambule fracassant n'est qu'un avant-goût de ce que nous réserve la suite. On découvre alors une jeune femme flic, Ruka, spécialisée dans la traque des mutants, des êtres assoiffés de sang capables de se greffer des armes à la place de leurs membres. Non. Peu loquace, déterminée solitaire, Ruka est obsédée par le meurtre de son père. Sa quête de vengeance l'amène à combattre ces mutants avec une détermination inouïe. Le cinéaste enchaîne alors les morceaux de bravoure à la vitesse grand V. Les geysers d'hémoglobine tâchent constamment l'écran, les organes se vident des corps mutants dans un montage hystérique à la limite du n'importe quoi. Intriguant au départ, on se dit quand même que l'on va se lasser de ce déballage de tripailles filmé avec une frénésie aussi jouissive qu'épuisante. Heureusement, Tokyo Gore Police est plus intelligent qu'il ne le paraît au premier abord. Loin de la pure provocation gratuite, cet ovni marque des points grâce à une ironie mordante. Toutes les publicités ponctuant régulièrement le film, notamment un délirant spot vantant les vertus du rasoir, renvoient explicitement au cinéma génial de Paul Verhoeven, et particulièrement à Starship Trooper, l'influence majeure du cinéma de genre japonais. Le discours politique sous-jacent, critique à peine voilé d'une société consumériste et fascisante, vantant constamment les mérites d'une police pour le moins radicale, prend même une tournure quasi anarchique dans une dernière partie pamphlétaire. Le cinéaste se livre sans arrière-pensée à une charge irresponsable et extrême contre l'ordre établi. Cette vision politique peut paraître facile et un brin naïve, mais elle n'en demeure pas moins percutante. La force du meilleur cinéma d'exploitation est poussée jusque dans ses derniers retranchements. Le but est alors de livrer un spectacle outré, excessif, transgressif, vomissant sans pudeur tout ce qui se fait de plus trash dans l'ordre grand japonais. On voit des gods filmés en gros plan, il y a vraiment un humour très douteux, il y a des membres sectionnés, les mutations sont grotesques, notamment une de la jeune fille avec un vagin géant et agressif, rien ne nous est épargné. Seul l'érotisme paraît vraiment très très gentillet dans ce film de vengeance moderne et stylisé. Entre le brûlot contestataire et le divertissement trash, en fait, Tokyo Gore Police dispose aussi de la sublime plastique d'Eishi Shima, là aussi je ne prononce pas encore comme il faut, qui était l'héroïne, pour ceux qui s'en souviennent, d'Audition. C'est un peu la digne héritière d'une actrice culte des années 70 qui s'appelait Reiko Ike, et qui jouait notamment dans des films comme La Femme Scorpion. Donc si l'hystérie d'un montage en roulis peut agacer, Tokyo Gore Police brille souvent par une mise en scène assez inventive. Il y a un beau travail du chef-op qui alterne les couleurs chaudes et les tonalités blafardes. Et surtout par un scénario soigné et retors, soulignant la supériorité du film par rapport aux autres expériences du genre qui, il faut l'avouer, sont quand même assez décevants. Donc le film transcende son aspect provoque à deux balles par une ingéniosité graphique et narrative, renvoyant parfois les films du cinéaste culte Tsukamoto, le réalisateur de Tokyo Fist, notamment, et de Tetsuo, à de simples bluettes. Donc au final, c'est vraiment une excellente surprise. C'est quand même très spécial, donc c'est réservé à un public averti. Donc c'est demain à 20h30 à Utopia.
Et du genre public averti, c'est moins de 16 ans, moins de
16, sûr.
Oui. Ah non, c'est-à-dire quand t'es encore... Parce que tu fais partie de l'organisation, attention, tu prends des risques.
Je prends des risques, mais généralement c'est un public étudiant, et hormis mon fils qui est venu voir La Sorcière Sanglante et qui avait 12 ans, il n'y a pas de mineur dans la
salle. Ah oui, il y a des passe-droits quand même, voilà. Il suffit d'aller te voir et puis voilà. Donc c'est la dernière absurde séance donc à l'Utopia, demain 20h30, avec comme toujours eh bien, des petits cadeaux à gagner.
Peut-être pas demain, c'est un peu spécial étant donné que c'est le 17, c'est le jour de l'Ascension. Donc,
Alors pourquoi il y aurait une grève des cadeaux?
Je ne suis pas présent et je ne m'en suis pas occupé.
Ah d'accord.
Alors je ne sais pas ce qui va se tramer derrière.
Ok. Dès que tu pars, c'est fini.
C'est fini.
Allez, on va jouer au blind test.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, 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 je vous dis. Et même saloperie. Hein.
Sur Divergence FM.
Cannes a débuté aujourd'hui. Enfin, quoique non, c'est pas tout à fait ouvert, ça ouvre ce soir.
Et oui.
Donc, Cannes s'ouvre ce soir, et donc c'est l'occasion eh bien, de faire, d'écouter des petits extraits de films parmi les palmes d'or de ce festival eh bien, qui dure depuis un petit moment. On va commencer avec quelque chose, avec un film français.
Les gestes se fixent tous dans une même attitude. Le geste du crime, partout, le mal. Voilà le mystère de ta génération. Des dizaines d'hommes et de femmes liés par les fibres du même cancer. Tu t'es reconnu dans les tiens. Tu ne te distingues plus du troupeau. Pas un acte de ta vie qui n'est ailleurs sans double. Pas une pensée qui te soit propre. Une pensée qui n'est pas morte avec les morts. Pas un geste qui ne fut depuis longtemps tracé. Non pas semblable, mais exactement les mêmes. Non pas répété, mais unique. Tu la sens, l'immense tromperie de ta vie? Tu l'entends, le rire de celui qui te trompe? Chacun de tes misérables ancêtres a reconnu et flairé en toi son bien et vient le reprendre, et toi, tu abandonnes tout. C'est comme si ce troupeau venait manger dans ta main sa propre vie. Que veux-tu leur disputer? Que veux-tu leur reprendre? Ils te laissent la faute dans ton cœur d'enfant.
Alors, tu as trouvé, Manu.
Sous le soleil de Satan, de Maurice Pialat.
Oui, tout à fait. Donc, Palme d'Or 1987. À noter que ce film a été moyennement accepté. On va écouter ce qu'avait déclaré Maurice Pialat quand il a reçu cette Palme d'Or. Scène forcément très étrange avec un Yves Montand qui était président du jury, qui était avec son costard, son EPAP, et puis on a vu Maurice Pialat monter sur scène avec une espèce de petit gilet, avec quand même un EPAP, hein, parce qu'il paraît que c'est obligatoire, mais voilà, enfin deux styles différents, et voilà, un cinéaste, un grand cinéaste français en tout cas, et intransigeant. Deuxième extrait, c'est aussi un film français, et c'est un peu plus vieux quand même.
Fumier. Ordure.
Ah, écoute.
Non, ça va, dis rien, j'ai compris. Monsieur a les flubes, hein?
Ouais.
Oui, toi. Monsieur a les copeaux.
Ouais.
Tu parles d'une terreur. Ah, il est joli, Al Capone. Il est frais. Le palu. Je t'en foutrais, moi, du palu, tiens. Tu veux que je te dise? Tu crèves de peur, t'es une gonzesse.
Ah, je te défends de dire ça, hein, si t'étais passé par où je suis passé.
Ah non, dis tes histoires pelopes, hein? T'as peut-être été un homme dans le temps, je dis pas, mais ça remonte à ma grand-mère, ça. Maintenant, tout ce que tu sais faire, c'est de descendre les types dans le dos, là, sans risque. Parce que les risques, tu les aimes pas, hein.
Mais je les aime pas parce que je les connais. Toi, t'es comme ça, tu comprends? Tu fonces sans regarder. Tu crois que t'es incassable. C'est facile parce que t'as pas d'imagination. Moi, je guette le caillou ou le trou qui va nous faire sauter. Puis cette nuit, c'est comme si j'étais déjà mort 50 fois, moi. Ça se passe là-dedans, moi, tu comprends? Je me vois éclater, déchiqueté, éparpillé par tout... Ah, non! C'est pas être une lope que d'avoir quelque chose dans le citron.
Tu devrais l'avoir où je pense, crois-moi.
Cause toujours, on en reparlera quand tu les auras accrochés aux branches, comme une paire de cerises.
Les testicules accrochés aux branches, comme une paire de cerises. Donc, c'est un film donc de 1953, c'est la Palme d'Or 1953. On entend Yves Montand.
Ah, c'est le salaire de la peur.
Voilà, tout à fait, avec un convoi de deux camions, avec de la nitroglycérine, voilà. En cargaison. Alors là, ça va être extrêmement facile, tout le monde va trouver.
Colombe 4, ici, Grand-Duc 6. Allez, assez rigolé, en avant. Rassez-moi tous ces arbres.
Grand-Duc 6, bien reçu. Colombe 13, tenez-vous prêt.
Ramène-moi ça, l'âge de pierre.
Épervier 12, Colombe 13, bien reçu. Il faut leur napalmer la ligne d'arbres là-dessous. Faites un passage et balancez la dose.
D'accord, 13, on cartonne et on les baise.
Objectif, vous cousillez les mortiers planqués derrière cette ligne d'arbres en bas.
Bien reçu, c'est parti.
C'est bon, mettez le paquet. Et allez-y en formation serrée. Elle contre elle.
Les connais-moi, les gars. Ils vont nous nettoyer le secteur en moins de deux pistons. Tu vas voir ça.
Grand-Duc 6 à Colombe 13. Les jets arrivent. Ils vont larguer d'ici 30 secondes. Faites dégager et planquez-vous. Attention, ça va barder.
Bon comme ce truc là. J'aime l'odeur du napalm au petit matin.
Une fois, on avait lâché une chiette bombe, arrosée pendant 12 heures de rang, et quand on est allé voir, on n'a pas trouvé un macap de Viette, il n'y en avait plus un seul. Ça emboumait, toute cette essence, ça sentait bon. La colline sentait. Ça fleurait. La victoire.
Ah, la scène était beaucoup plus longue, hein, mais il fallait quand même le laisser dans cette durée. Ça a été trouvé, forcément, c'est...
Apocalypse Now de Coppola.
Ah oui, Palme d'Or 1979, alors ex-aequo avec le film Le Tambour de Schlendorf. Et à noter, la particularité de ce film, c'est quoi ? Il y a une particularité.
Une particularité ? Oui. Ah bon ?
Il n'a pas de générique.
D'accord.
Et on voit le nom du titre sur un mur, voilà, en graffiti. Voilà, Apocalypse Now. Après, il y a d'autres films qui ont refait ce principe de ne pas faire de générique. Allez, un facile, et c'est un français.
Une fois qu'on a compris la règle, à savoir je compte devant une consonne, je ne compte pas
question.
Devant une... Quoi ?
Bah, à ce qui paraît, hier, enfin, au conseil de classe et tout, vous m'avez cassé.
C'est encore une remarque sur la poésie, je le constate.
Mais moi, je parle pas de poésie.
Oui, je vois bien que tu parles pas de poésie, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, vous m'avez cassé ?
Bah, je sais pas, moi, vous m'avez cassé.
Il y a des gens qui... On dit que si tu continuais comme ça, je n'en étais pas vraiment, mais des gens ont pu dire, des profs ont pu dire que si tu continuais comme ça, tu aurais peut-être quelques ennuis. Il ne s'agissait pas de te casser.
Ah ouais, mais c'est de la vengeance, ça. Même, je ne comprends pas. Tous les profs, ils veulent se venger. Pourquoi ?
Quel rapport avec la vengeance ?
Ouais, mais quand vous dites et tout, je vais avoir des problèmes et tout, c'est de la vengeance, ça, non ?
Ça n'a rien à voir avec de la vengeance.
Comment ça, c'est pas de la vengeance ?
Mais pas du tout.
Mais si, c'est de la vengeance.
On n'est pas dans la rue, là. C'est pas ça. On te prévient. On n'est pas là pour se venger des gens, on est là pour essayer.
Voilà, donc
de
bon, c'est trop facile.
Trop facile, oui.
Ouais. Donc ça a été trouvé.
Contre les murs.
Palme d'Or 2008, film de Laurent Cantet qui avait fait l'unanimité hein, pour le jury. Alors on voit bien la différence entre un Coppola avec beaucoup de moyens et puis un film de Laurent Cantet avec très peu de moyens. Et tous les deux peuvent arriver à avoir la Palme d'Or, la consécration cannoise. Alors là, film culte, scène. Culte, je l'ai coupé parce qu'elle est très longue, c'est la fin, il s'agit d'une montre.
Coolidge l'avait sur lui le jour où il s'est fait descendre en volant sur un œil. Ton père fut capturé et envoyé dans un camp de prisonniers. Si les niaques voyaient sa montre, elle lui serait confisquée. Il le savait. Et pour lui, il était clair que cette montre te revenait de droit. Et pour rien au monde, il ne voulait que les niaques mettent leurs pattes sur ton héritage, le patrimoine de son fils. Alors il décida de la cacher. Comme il n'y avait pas d'autres cachettes, il se les mise dans le cul. Il fallait avoir du courage pour le faire, se la mettre dans le cul. Un jour, juste avant que la dysenterie le tue, il me donna la montre. J'ai alors caché ce vieux bout de métal dans mon anus 2 années durant. Et après 7 ans d'absence, je pus retrouver ma famille. Et aujourd'hui, cette montre... Je suis venu te la donner.
C'est un souvenir hein, qu'a Bruce Willis, alors qu'il va, je crois, faire un match de boxe. C'est
Pulp Fiction.
Pulp Fiction, évidemment. Avec Christopher Walken. Palme d'Or 1994. Donc là encore, une sacrée différence entre les murs et Pulp Fiction et même Apocalypse Now. Alors là, le dernier, eh bien, c'est aussi très étonnant.
Il roule pour vous le train du bonheur, le train du bonheur, il sera à l'heure. Sur la colline, voyez sa fumée, c'est dur de grimper, il est essoufflé. Aussitôt que son petit sifflet résonne, c'est la joie des enfants et des grandes personnes. Il roule pour vous le train du bonheur, il sera à l'heure, le train du bonheur.
Alors, ça n'a pas été trouvé. Alors, c'est un film de Walt Disney, voilà, de 1947. C'était Dumbo.
Ah oui.
Dumbo a gagné la Palme d'Or. Alors, pas à l'unanimité, hein, puisque cette année-là, ils ont été beaucoup à l'obtenir. Il y avait un film de René Clément, Jack Baker et de Vincente Minnelli. Voilà, ils l'ont partagé. Voilà, bah, c'est la fin de ce blind test spécial Cannes. À noter que parmi les Palmes d'Or, eh bien, il y a eu 21 Palmes qui ont été obtenues par les États-Unis, 11 par la France, 11 par l'Italie, 10 par le Royaume-Uni, 4 par le Japon. Le Danemark en a obtenu 4. Alors c'était surtout vrai au début de Cannes. Et puis, à noter, bien, parmi les grands, hein, que David Lynch a obtenu sa palme avec Sailor et Lula, pas forcément le film le plus marquant en ce qui me concerne. Et puis, les frères Coen l'ont eu, mais en 91, avec Barton Fink, qui est plus depuis. Et Martin Scorsese, c'est pareil, hein, 1976. Et après, plus rien. Et donc, Emir Kusturica, les frères Dardenne, Coppola en ont eu deux. Et ce qui est très étonnant, c'est que Cronenberg a été donc président déjà du jury, qu'il est en compétition cette année, et lui fait partie quand même de ces grands réalisateurs qui ne l'ont jamais obtenu. Alors voilà, peut-être cette année pour David Cronenberg. C'est Cinérama, on fait une petite pause musicale, et puis après, eh bien, on écoutera une interview de Mohamed Diab qui, pour les femmes du bus 678. Et on continue avec nos pauses musicales qui concernent les vainqueurs de Cannes, puisqu'on en a déjà parlé. Quentin Tarantino, c'était l'extrait de la bande originale Pulp Fiction. On passe sans transition donc avec une interview de Mohamed Diab réalisée par Marine, donc, qui n'est pas là dans les studios, mais qu'on va quand même entendre. Elle avait fait sa première interview, c'était pendant le Cinémed, où le film avait été présenté en avant-première. Il est à nouveau présenté en avant-première, ce sera ce lundi 21 mai. Dans le cadre du festival Arabesque. On écoute donc cette interview et puis quelques mots de Marine.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule,
Cinérama,
je suis allergique,
sur Divergence FM.
Avant l'écriture du film, bien sûr, il ne sait comme, en tant que com vivant en Égypte, il avait zéro information par rapport à l'affaire. Donc bien sûr que il y avait les femmes, elles étaient un peu gênées de parler de cette affaire. Du coup, après les interviews et les entretiens, il a pu justement voilà, découvrir la profondeur de ce sujet. Donc en Égypte, beaucoup d'hommes disent que ce film, que c'était une fabrication, c'est un scénario, voilà, c'est une fiction, les faits ne sont pas réels, parce que pour eux, les femmes qui sont autour d'eux ne parlent pas de ce sujet, c'est un sujet vraiment tabou, tout tabou en Égypte. Mais bon, apparemment, donc ce film a vraiment, enfin, commence à avoir un impact. Il n'a pas été censuré, aucune scène n'a été censurée par l'État ou quoi que ce soit, parce que c'est vrai que quand tu as une renommée, tu as des limites, tu as des frontières qu'il ne faut pas dépasser, et lui, il était vraiment à la frontière, donc il n'a pas dépassé la frontière, donc aucune scène n'a été censurée ou interdite. Voilà, ça n'a aucun rapport avec la religion. C'est pour ça qu'on trouve des pays musulmans où il y a de l'agression et des pays où il n'y a pas d'agression. Donc en fait, c'est une question de loi. Question de législation, c'est-à-dire qu'il y a des pays où quand tu agresses quelqu'un, ben, tu es puni par la loi. Donc en Égypte,
c'est pas le cas.
Voilà. Donc il dit que voilà, le printemps arabe, c'est vrai que dans les pays arabes, ça, c'est un pas vers le développement et le changement. Donc il dit que ça sera un pas aussi dans le changement par rapport à ce sujet-là aussi.
Quand je lui ai demandé l'étendue du harcèlement sexuel, etc., il m'avait dit que ça venait quand même beaucoup d'un problème économique, d'un problème d'argent, parce que les gens n'arrivent pas, les hommes ont besoin de beaucoup d'argent pour se marier en fait. Et du coup, ils se marient très très tard, Ils n'ont pas le droit de toucher aux femmes, etc. avant, et du coup, ça, ça augmente cette frustration sexuelle.
Quand le film a été projeté en Égypte, donc les hommes surtout pensaient que c'était un film qui était où il y avait plein de scènes sexuelles. Donc il y avait plein d'hommes qui sont allés le voir, mais au début, donc ils étaient déçus. Après, ils ont rigolé, donc ils ont trouvé ça marrant. Ils ont rigolé, mais à la fin, ils se sont rendus compte de ce qui se passe vraiment, de ce qu'ils font. Et donc à la fin, il y avait une certaine, un certain calme. Et donc les gens, les hommes surtout, à la fin de la séance, il y avait un respect, une peur. Ils laissaient les dames passer. Ils avaient carrément changé de comportement avec les femmes juste pendant, avant et après, après le film. Et en fait, il dit que dans ces 10 dernières années, l'Égypte était soit le premier, soit le deuxième pays à taper porno ou porn sur Google. Donc en fait, le sujet, il est vraiment justement la frustration sexuelle. C'est vraiment difficile parce que, comme nous a dit tout à l'heure, comme en Égypte, on n'a pas le droit d'avoir des relations sexuelles en dehors du mariage. Donc entre la puberté, c'est-à-dire 14 ans et 30 et quelques, ou même 40 ans, l'âge du mariage, donc il y a un décalage énorme. Il connaît des gens qui ont même pleuré tellement ils avaient envie de passer à l'acte parce que c'était ils avaient perdu espoir.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire un film sur ce sujet-là?
Déjà la première raison c'était il avait fait des films en tant que scénariste, donc c'est vrai que le film était bien, mais bon c'était pas lui. C'était pas son film, donc déjà qu'il avait envie déjà de réaliser son propre film qu'il a écrit lui-même. Puis ce sujet-là, ce film-là précisément, il savait exactement comment filmer les scènes, tout en fait, il avait tout dans sa tête, donc il voulait vraiment faire un film d'une manière où les gens, ça sera vraiment quand même un petit peu dans les normes pour pas dépasser les limites par rapport à la société arabe et égyptienne en particulier. Et la dernière chose, c'est que c'est le fait que ce soit un homme qui ait réalisé ce film et ce sujet, parce que si c'était... Il dit que si c'était une femme, ça serait ils auraient dit que voilà c'était que c'est une féministe, que voilà qu'elle a des positions, mais le fait que ça soit le point de vue d'un homme, ça vraiment ça rajoute beaucoup au film. Il a choisi ce sujet-là précisément parce qu'il dit que la femme en fait avait besoin que quelqu'un prenne position et prenne sa défense. Il a senti que la femme était dans une position de faiblesse et qu'il fallait faire un film pour changer ça. Donc en fait, il a passé un an à vivre dans un monde très, très féminin, totalement féminin, pour analyser, pour vraiment cerner le sujet de tous les points de vue. En fait, ce n'est pas vraiment un problème que masculin, c'est un problème de société, puisque les femmes aussi blâment d'autres femmes, puisqu'elles sont soit pas voilées ou justement voilées. Dans ce film, les libéralistes lui ont dit qu'il était pour les voilées, et les voilées lui ont dit qu'il était pour les autres. Donc quand il a vu qu'elle a été accusée des deux côtés, il s'est dit qu'il est au milieu. Il était entre les deux.
Mohamed Diab, donc, qui était présent à Montpellier pour le Festival Cinémède, où je crois, si mes souvenirs sont bons, mais c'est pas sûr, que Les Femmes du Bus 678 ont remporté le prix public. Et donc, c'est une avant-première au Diagonale, ce lundi 21 mai à 20h, dans le cadre du Festival Arabesque, qui se déroule du 21 au 27 mai, mais principalement le week-end du 27 mai, du côté du Domaine d'Eau.
Cinérama.
Ça ne vous gêne pas si je prends quelques petites notes?
On termine par l'agenda avec une projection unique le dimanche 20 mai à 10h30 à l'Utopia du film Les Amoureux au banc public de Nicolas Ferrand, qui a été avocat de la CIMADE pendant longtemps. Et donc c'est sur la lenteur administrative, les pressions policières et les traitements dégradants subis par les couples franco-étrangers victimes de la politique donc d'immigration. Il y aura un petit déjeuner en partenariat avec Artisans du Monde. Donc il suffit d'amener le solide et l'Utopia vous donne le liquide. Au Diagonale, le lundi 21 mai, à 18h, il y aura la déforestation et le palmier à huile, une séance suivie de débats avec le collectif No Palm, nouvelle orientation pour des alternatives locales en Méditerranée. J'en ai déjà parlé, donc les femmes du bus 678, c'est à 20h le lundi. Mardi 22 mai, c'est l'apiculture traditionnelle. C'est une séance suivie de débats avec Delphine Maillet, apicultrice et présidente de Nature et Progrès Gare, et de Romain Simenel, chercheur à l'IRD. Et ça, c'est au Diagonale, et une nouvelle fois au Diagonale dans le cadre d'Arabesque le mardi 22 mai à 20h, Making of de Nouri Bouzid, séance suivie de débats animés par Michel Cerceau, qui est co-président d'AFLAM, association pour promouvoir l'expression des cinémas arabes. Et on peut parler aussi de l'absurde séance qui sera donc jeudi, demain à 20h30.
Oui, demain soir.
Voilà, à l'Utopia. Et puis, comme on a aussi parlé du Festival de la Salle, on peut dire que ça se déroule du 16 au 19 mai. Et toujours à l'Utopia, Today's in New York, au prochain printemps, Five Easy Pieces, I Wish, L'amour et rien d'autre, L'enfant d'en haut, Le fils de l'autre, Les adieux à la reine, Les amoureux au banc public, j'en ai déjà parlé, Les pirates, Les vieux chats, Querelle, Tout seul Arzac et Weekend.
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré bon Dieu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Manu, on parlera la prochaine fois des deux sorties DVD du Cinéma Bis. Hein,
oui, voilà.
Parce que de toute façon, ça sort en juin.
Ça sort en juin.
24 notes secondes, c'est quoi?
La transformation.
Voilà. Et c'est juste après Cinérama. On se retrouve la semaine prochaine. Eh bien, bon cinéma, hein, parce qu'il y a des sorties de Cannes aujourd'hui.
Cinérama.
Il n'y a que des combines, il n'y a pas de héros, rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs, rien que des combines et de la merde. Il n'y a pas de saints, il n'y a pas de génie, rien que des combines et des contes de fées, ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.